Bienvenue sur Mediapart et dans notre émission Écho à contre-courant. Aujourd'hui, on va parler des évolutions de l'économie politique en France et de la manière dont ces évolutions éclairent le débat pour la présidentielle que nous allons connaître bientôt. La bonne personne pour en parler, c'est certainement l'économiste Bruno Amable. Bonjour. Je dis la bonne personne parce que vous publiez tout récemment aux éditions de la Découverte la résistible ascension du néolibéralisme. Vous êtes économiste à l'Université de Genève, mais c'est vraiment une plongée dans les quelques dernières décennies françaises, à la fois de l'histoire économique et de l'histoire politique. On va évoquer évidemment le quinquennat Macron, mais l'intérêt de votre livre, c'est justement de remonter plus loin dans l'histoire pour comprendre les sources de la crise politique française que vous caractérisez par l'incapacité des dirigeants politiques à s'attirer le soutien durable d'un bloc social dominant pour gouverner. Alors, on va revenir sur ces notions par petites touches. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer, pour celles et ceux qui ne sont pas forcément spécialistes d'économie, en quelques mots, pourquoi vous dites que, d'un côté, depuis plusieurs décennies, il y a un ensemble de réformes assez lourdes qui vont dans un sens néolibéral, mais que pour autant, comme vous l'écrivez, c'est difficile de parler de variante française du capitalisme néolibéral. En tout cas, c'est un adjectif qui serait trop brutal s'il était unique.
C'est-à-dire que le modèle socio-économique français est quand même caractérisé par un ensemble d'institutions qui reposent sur des compromis qui sont relativement anciens, qui sont construits assez lentement, alors pour la plupart après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc une bonne partie des institutions qu'on connaît ont été transformées, mais n'ont pas été, pas toutes en tout cas, et n'ont pas été complètement modifiées de fond en comble. Et donc une bonne partie des institutions repose encore sur ces compromis passés. Et tout le travail qui est fait par les réformateurs néolibéraux d'aujourd'hui, c'est justement essayer de transformer ce modèle, mais ça prend fatalement du temps. Et certains domaines sont plus difficiles à transformer que d'autres, et donc ils y vont soit plus lentement, soit avec plus de prudence. Donc c'est pour ça que on transforme pas un modèle socio-économique comme ça du jour au lendemain, ni même d'ailleurs en quelques années, mais c'est probablement une entreprise d'assez long terme, mais qu'on connaît, dont on a l'expérience depuis effectivement plusieurs décennies.
Ouais, c'est ça que vous capturez par la notion d'hybridation.
Ouais, absolument. C'est-à-dire qu'on a un modèle, à l'heure actuelle, il est un hybride des compromis institutionnalisés passés et des nouveaux compromis issus des mouvements de réforme néolibérale.
Dans cette transformation au long cours de l'économie politique française, vous ciblez deux moments symboliques, deux tournants cruciaux, 1983 et 2012, et à chaque fois, c'est sous la présidence d'un dirigeant socialiste. On va écouter, pour expliquer pourquoi, un extrait de François Mitterrand en mars 1983. C'est au moment où il annonce ce qu'on va appeler ensuite le tournant de la rigueur. On écoute.
Ce que j'attends de lui n'est pas de mettre en œuvre je ne sais quelle forme d'austérité nouvelle, mais de continuer l'œuvre entreprise adaptée à la rigueur des temps pour que nous sortions au plus vite du creux de la tempête. Aussi, lui ai-je fixé les objectifs suivants. Former les jeunes, tous les jeunes, aux métiers d'avenir. Ramener l'inflation à un niveau comparable à celui de nos concurrents. Rétablir en 2 ans l'équilibre de notre commerce extérieur. Soutenir les entreprises et les équipes de créateurs qui innovent pour exporter. Respecter les équilibres financiers de la sécurité sociale et contenir le budget de l'État dans ses limites actuelles. Développer l'épargne en l'orientant et par tous les moyens vers la rénovation de l'industrie et l'amélioration du logement.
Donc à l'époque, c'est censé être une parenthèse. C'est comme ça que c'est présenté. La notion d'austérité est rejetée par le président dans son discours. Mais avec le recul, on peut voir aujourd'hui qu'il y a eu une sorte d'effet cliqué du tournant de la rigueur. Vous diriez les choses comme ça?
Oui, comme vous dites, c'était une parenthèse. Pour des gens comme Delors et autres, à l'époque, c'était pas du tout une parenthèse. C'était le retour à la raison.
C'était vendu comme une parenthèse par certains.
C'était vendu comme une parenthèse. D'ailleurs, Jospin va dire en 97 ou 98, il va dire la parenthèse de la rigueur est refermée, ce qui n'était pas véritablement le cas. Et il parle de rigueur, en fait, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, le mot d'austérité était très étroitement associé à Raymond Barre, qui l'avait employé abondamment.
Le prédécesseur de l'équipe de 80.
Et donc, il fallait surtout pas employer ce mot, donc c'est pour ça qu'ils ont sorti rigueur, et finalement, le mot est resté, parce qu'il est connoté plus positivement qu'austérité, en France, tout au moins.
Et alors, qu'est-ce qui fait que ce... On a entendu certaines des orientations, mais qu'est-ce qui fait que ce tournant de la rigueur, il marque un avant et un après, justement? Pourquoi est-ce que ça va dans le sens du néolibéralisme? Qu'est-ce qui se met en place, à ce moment-là?
Ce qui se met en place, c'est le renoncement définitif au projet alternatif. Au moment de 80, pendant la plupart des années 70 et jusqu'à l'élection de 80, on a deux projets politiques qui s'appuient sur deux blocs sociaux différents. Le projet politique de la gauche, c'est supposé être une transformation social-démocrate, voire plus si affinité, quoi. Et en fait, le tournant de la rigueur signe le décès de ce projet, et finalement, on renonce à une transformation radicale. Et la gauche de gouvernement, comme on va dire plus tard, se contente de gérer les affaires, va gérer la transition néolibérale de la façon la moins brutale possible, vont-ils espérer.
Alors, on va maintenant écouter un autre président de la République, François Hollande. Alors, c'est pas exactement 2012, c'est 2014. Et à l'époque, il annonce devant la presse le pacte de responsabilité.
J'ai proposé le pacte de responsabilité. Il a un principe simple. C'est d'alléger les charges des entreprises, de réduire leurs contraintes sur leurs activités, et en contrepartie, de permettre plus d'embauches et davantage de dialogue social. Pourquoi ce pacte? Parce que le temps est venu de régler le principal problème de la France, sa production. Oui, je dis bien sa production. Il nous faut produire plus. Il nous faut produire mieux. C'est donc sur l'offre qu'il faut agir. Sur l'offre. Ce n'est pas contradictoire avec la demande. L'offre crée même la demande.
Qu'est-ce qui relie François Hollande à 1983 et surtout en quoi ce moment-là, 2012-2014, en quoi est-ce qu'il représente une rupture supplémentaire par rapport aux orientations déjà conformistes que vous avez décrites de Mitterrand et la suite?
C'est-à-dire que jusqu'à Hollande, le PS a quand même une idée d'alliance politique à gauche. Ils ont une idée, probablement on peut réinterpréter ça comme ça, ils ont une idée de transformation à la fois de leur politique gouvernementale et de leur base sociale, mais qui est plus dans l'évolution continue que dans la rupture brutale. Alors qu'avec Hollande en 2012, il arrive au pouvoir en fait sans avoir d'alliance à gauche, et il demande juste des ralliements qu'il va obtenir ou pas, mais en tout cas il est clair qu'il ne cherche plus une alliance à gauche et qu'il cherche autre chose. Donc et ça peut s'expliquer aussi parce que on arrive à un moment où la poursuite de la politique néolibérale va arriver à attaquer des domaines institutionnels qui sont au cœur des attentes du bloc social de la gauche, qui est déjà mal en point.
Ah, est-ce qu'on peut détailler ça?
Oui, alors, théoriquement, je me suis appuyé sur la façon dont j'avais analysé les modèles socio-économiques dans le livre précédent auquel je faisais référence, hein, les cinq capitalismes. Donc vous avez un ensemble de domaines. Vous avez le domaine, le marché des biens, la protection sociale, la relation salariale, etc., etc. Le secteur financier, etc. Ce qui s'est passé dans les 30, 40 années depuis les années 80, c'est que on a eu cette alternance politique. Mais les deux coalitions au pouvoir, en fait, ont cherché à transformer d'une manière néolibérale le modèle socio-économique français. Mais alors chacun, les deux forces politiques, chacune de ces deux forces a essayé de préserver, en fait, les choses qui étaient les plus importantes du point de vue de leur base sociale respective. Donc c'est pour ça que lorsque la gauche a été au pouvoir, elle a néolibéralisé des domaines qui n'apparaissaient pas comme très importants pour leur base sociale. C'est pour ça que c'est eux qui font les grandes réformes dans le secteur financier dès les années 80. C'est eux qui...
Ils sont peut-être pas importantes pour leur base sociale, mais qui ont une importance cruciale. C'est très technique, mais en gros, c'est comment on finance l'économie, comment on flèche l'argent, vers quelle activité, qu'est-ce qu'on choisit de produire.
Ils l'ont fait précisément parce que personne n'y comprenait rien et que personne ne s'y intéressait à l'époque. Ouais. Maintenant, on s'y intéresse beaucoup plus suite à la crise de 2008. Mais avant ça, ça ne faisait pas descendre dans la rue hein, les transformations du secteur financier. Et donc, voilà, donc ils vont faire ça. Et la droite, elle, alors, elle est plus sensible aux attentes de sa base sociale. Et les attentes de sa base sociale, elles sont quand même du côté de la flexibilisation du marché du travail et du côté de la transformation du secteur de la protection sociale. Alors, ils vont essayer de faire ça, mais ils vont y aller. Alors, d'abord très maladroitement et après très prudemment, parce qu'une partie de leur base sociale, quand même, est attachée à un certain modèle socio-économique français protecteur.
Donc. Oui, parce que Chirac, en 86, hein, au moment de la première cohabitation, et il va un peu violemment, et donc ça suscite des résistances, et donc Exactement. Après, ils seront un peu plus prudents.
Ça suscite des résistances à gauche, à la limite, ils s'en fichent, mais suscite des résistances du côté de leur base sociale, et ça, ils y sont très conscients. Et donc après cette tentative de rupture brutale, hein, c'était Chirac, justement, avait utilisé cette expression, en disant qu'il faudrait une rupture assez brutale. Ils ont vu que ça marchait pas, donc après, ils vont y aller beaucoup plus prudemment, et ils vont essayer de gérer, en fait, des contradictions qui existent au sein de leur base sociale, et finalement, quand on regarde ce qu'ils ont fait, ils les ont mieux gérés que la gauche n'a géré les contradictions au sein de sa propre base sociale. Et donc, pour revenir à 2012, qu'est-ce qui se passe en 2012 ? C'est que le modèle socio-économique a été pas mal transformé dans tout un tas de domaines, mais pas fondamentalement, en tout cas, dans les domaines de la protection sociale et de la relation d'emploi. Et donc, la poursuite du mouvement, c'est ça. Et donc, on arrive à un moment où on a un président en théorie de gauche qui va se mettre à faire des réformes d'inspiration néolibérale dans des domaines qui sont absolument cruciaux pour la base sociale de la gauche. Donc, je pense qu'il est parfaitement conscient que ça va pas plaire à une partie de sa base sociale. Et donc, il recherche une stratégie qui est une stratégie d'une autre base sociale, ce qui était plus ou moins ce que le PS essayait de faire, mais de faire d'une manière plus discrète que ça ne va être le cas.
Oui, parce que dans l'extrait qu'on vient d'écouter, ce fameux pacte de responsabilité, bon, en gros, c'est un truc très classique, c'est on file de l'argent aux entreprises en disant qu'elles vont bien investir là où il faut, que ça va créer de l'emploi, etc. Bon, ça marche pas vraiment comme ça. En tout cas, les objectifs attendus sont pas vraiment remplis. Mais la vraie rupture, en fait, c'est, si on peut dire, c'est cette, pour ceux qui s'en souviennent, donc 2016, la loi travail qui était à l'époque portée par la ministre Myriam El Khomri. Et donc là, c'est ce que vous dites, c'est que là, ça touche vraiment à la relation de travail. Et c'est pour ça que le peuple de gauche, entre guillemets, là, s'est senti vraiment, vraiment agressé, quoi. Plus encore que par l'austérité qui a aussi été pratiquée sous Hollande. Mais...
Il y a eu l'austérité, il y a eu la loi Macron, mais qui de nouveau ne touchait pas que le domaine du travail. Et donc là aussi, il y avait un nombre impressionnant
de
mesures.
Oui, c'était un peu pourri de plein de petites mesures.
Exactement. Donc c'était pas très très visible, alors que la loi travail c'est très visible. C'est vécu à juste titre, je pense, comme une trahison, parce que ça figurait pas dans le programme de Hollande. Et oui, donc voilà. Et là, on a vraiment une réaction, et c'est le constat du divorce, en gros, entre la base sociale de la gauche et le PS.
Alors, avant de continuer jusqu'à aujourd'hui, je le disais, vous remontez loin dans l'histoire, et une des réflexions qui m'a particulièrement intéressé, c'est la façon dont il y a toute une tradition moderniste, vous appelez ça le modernisme, qui est partagée par toute une partie de la gauche gouvernementale. Alors, ça remonte aux années 30, ça va jusqu'aux années 80, et c'est une tradition qui n'est pas justement néolibérale, c'est pas on construit le marché, la concurrence, etc., mais qui petit à petit, en fait, a été absorbée par le néolibéralisme. Vous allez même jusqu'à parler de dégénérescence. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'était que le modernisme ? Vous prenez l'exemple d'une figure de ce modernisme qui, dans le paysage de gauche, centre-gauche, dans les années 50-60, c'était Pierre Mendès-France. Et donc, voilà, qu'est-ce que c'était et pourquoi ça s'est à ce point converti dans du néolibéralisme tout court, presque ?
Dans les années 20-30, il y a ce mouvement qui part d'une partie du patronat et des intellectuels qui constatent en fait le retard à la fois technique, organisationnel et autres de la France qui s'est manifesté au moment de la Première Guerre mondiale avec les difficultés, etc. Donc vous avez tous ces gens qui sont généralement des diplômés, parfois des meilleures écoles d'ingénieurs, style polytechnique et autres, qui ont envie en fait d'une transformation rationnelle de la société, qui sont aussi conscients des limites du libéralisme, notamment de la négligence de la questions sociales, des problèmes que ça peut poser, qui regarde probablement avec effroi ce qui est en train de se passer du côté de l'Union soviétique. Voilà, et donc ils se disent,
ils refusent le collectivisme.
Exactement. Ouais. Et donc voilà, donc il y a ce mouvement. Et alors ces gens en fait ont beaucoup en commun avec avec les néolibéraux. Ils se confondent pas avec les néolibéraux strictement, mais il y a quand même beaucoup d'éléments en commun. Il y a un certain élitisme. Il y a le refus du communisme et de l'économie planifiée. Il y a une méfiance vis-à-vis de la souveraineté populaire parce que et de la politique en général, etc. Bref, il y a tout un tas d'éléments. Mais vous avez aussi donc le modernisme est assez large et vous le trouvez à gauche comme à droite. Vous le trouvez plus ou moins interventionniste. Vous le trouvez plus ou moins préoccupé de la question sociale. Voilà. Et alors, ce qui va se passer au cours des décennies qui vont suivre, c'est qu'effectivement le modernisme va dégénérer et il ne va plus rester chez ceux qui sont les héritiers de ce mouvement, que les éléments qui étaient en commun avec le néolibéralisme.
Oui, c'est-à-dire qu'ils oublient tout ce qui était, comme vous dites, préoccupation pour la question sociale, planification aussi, c'était quand même assez fort, et tout ça s'évapore. Y compris d'ailleurs la critique de l'intégration européenne, parce que je citais Mendès France tout à l'heure, qui est souvent présenté un peu comme conscience morale, c'est vrai qu'il a aussi beaucoup œuvré sur d'autres sujets, sur la décolonisation notamment, donc c'est pour ça qu'il s'est resté une figure symbolique très forte à gauche, il est présent au moment de l'investiture de Mitterrand en 80, donc ça reste une grande figure, mais contrairement à ses héritiers très modérés, finalement lui, assez tôt, au moment de la construction, des tout débuts de la construction européenne, dit attention, là on met le doigt dans un engrenage un peu dangereux, vous allez vraiment perdre en capacité d'action, notamment économique et sociale. Et ça, ces héritiers l'ont totalement oublié.
Mais il y a un exemple que je cite qui, à mon avis, illustre très bien la dégénérescence. C'est que dans le fameux discours que tout le monde connaît de Mendès France qu'il fait devant l'Assemblée nationale au moment juste avant la signature du traité de Rome, où il dit « Faites attention, parce que si les capitaux sont libres de circuler en Europe, on ne va pas pouvoir... c'est la concurrence sociale et fiscale qui va prévaloir. »
La concurrence des modèles, le dumping, ça commence là.
On va vers le moins-disant social, etc., etc. Et je dis, il n'y a pas meilleur exemple de la dégénérescence du mendécisme ou du modernisme de gauche que de voir que le soi-disant héritier de Mendès France, c'est-à-dire Jacques Delors, va être celui qui va organiser la liberté de circulation des capitaux, non seulement à l'intérieur de l'Europe, mais entre l'Europe et le reste du monde. Et donc, il trahit complètement, si vous voulez, la préoccupation quand même sociale qui était encore celle de Mendès France.
Ouais. Et je fais une petite parenthèse en vous écoutant. Est-ce que justement cette question assez cruciale, quand on y pense, de contrôler les mouvements des capitaux, en tout cas des plus importants d'entre eux, est-ce que c'est pas un peu le tabou, on n'en parle plus, en fait. Personne n'en parle dans la campagne française.
C'est les quatre libertés.
Même du côté de la France insoumise, finalement, ce n'est pas une revendication première.
Non, je pense qu'on en a un peu parlé après la crise de 2008, parce que ça... Mais l'idée de la concurrence reste fixée sur des choses très, très... C'est-à-dire la concurrence des modèles, la course vers le moins-disant social semble se fixer sur des aspects qui sont des aspects un peu désagréables, du style il faut empêcher les camionneurs de je ne sais quel pays de venir concurrencer, etc. Ce qui reste un aspect, alors c'est pas négligeable, mais c'est pas au cœur, c'est pas l'explication première. L'explication première, fondamentalement, c'est qu'on a organisé tout un tas d'institutions qui font qu'on va vers le moins-disant social.
Parce que le capital peut voyager d'un pays à l'autre et mettre en concurrence les structures de production. Une des raisons, je le disais tout à l'heure, de la crise politique qu'on vit, en tout cas de l'instabilité qu'on vit là, de mandat en mandat, vous dites c'est parce que les gouvernements successifs mènent des politiques qui correspondent aux intérêts de ce que vous appelez un bloc bourgeois, en négligeant les composantes populaires qui faisait partie du bloc de gauche et de droite, parce que même le bloc de droite avait aussi sa composante populaire. Mais dites-vous, ce bloc bourgeois est beaucoup trop étroit socialement pour faire une assise politique durable. Du coup, je pose une question naïve. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'obstine dans cette orientation néolibérale si vraiment il n'y a pas de base sociale pour ça? Quelles sont les autres incitations à vraiment s'acharner à faire du néolibéralisme en France où visiblement il y a quand même des résistances?
À mon avis, il y a une réponse à plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui est le plus immédiat, qui est que les gens qui font ça ont un intérêt personnel à le faire. Et que finalement, peut-être bien que...
L'intérêt de classe, en gros.
Oui. Et que la victoire électorale n'est pas le plus important pour eux, surtout que dans les périodes d'alternance qu'on connaît, celui qui perd au coup d'après gagnera... celui qui perd maintenant gagnera au coup coup d'après. Quoi. Sinon, plus fondamentalement, si on revient sur la question théorique, les blocs sociaux, etc., je pense que du côté de la gauche, il y a vraiment du PS, hein, du côté du PS, il y a vraiment la volonté de trouver une nouvelle base sociale, et donc c'est un calcul à moyen terme, plus qu'à qu'un calcul à court terme. Ils se sont auto-persuadés, et ça a fini par devenir réalité, ils se sont auto-persuadés qu'ils ne pouvaient plus continuer avec la base sociale de la gauche. De toute façon, il y avait une bonne partie de leurs dirigeants qui ne voulaient plus le faire, et donc ils recherchent ce qu'ils pensent être l'avenir, et ils pensent que l'avenir leur donnera raison. Et en fait, ils font une politique qui va dans la direction de la création du bloc bourgeois. Mais effectivement, ça passe par des défaites électorales. Oui. Je pense du côté de la droite, c'est un peu différent. Eux, ils cherchent à préserver leur bloc social, et les difficultés sont d'un autre ordre.
Et je pose la question dans l'autre sens aussi, dans cette théorie comme ça des blocs sociaux. On se dit, mais après tout, si justement la base est si étroite que ça pour le néolibéralisme, comment expliquer que les électeurs français, majorité après majorité, envoient des gens qui font des politiques néolibérales? Et pourtant, l'expérience joue, c'est-à-dire qu'une fois que la gauche, même la gauche, qui n'est pas censée faire du néolibéralisme, contrairement à la droite, est au pouvoir une fois, deux fois, trois fois, qu'on a l'expérience, on pourrait dire, ils vont chercher une autre offre politique. Alors, est-ce que cette offre politique n'existe pas ?
C'est-à-dire que c'est compliqué. À partir du moment où on a la rupture des deux blocs, le bloc bourgeois, certes, il est étroit, mais il est homogène. Il est relativement homogène, donc c'est relativement facile, disons, de construire une offre politique qui va l'agréger. Et le problème, finalement, sera son extension. C'est ça qui va amener, en fait, à orienter la politique dans une certaine direction. Maintenant, de l'autre côté, on pourrait dire qu'il devrait y avoir un bloc anti-bourgeois, et il serait même majoritaire. Le problème étant que c'est très compliqué, en fait, de les agréger. D'abord, ils sont les groupes sociaux ont appartenu vraiment à des représentations, des cultures politiques très très différentes, alors que finalement la partie bourgeoise du bloc de gauche, par beaucoup de données sociologiques, etc., n'est pas si éloigné que ça de la partie bourgeoise du globe, très bourgeoise du bloc de droite. Alors que les classes populaires du bloc de gauche sont quand même très différentes des classes populaires du bloc de l'ancien bloc de droite. Hein. Et les attentes sont relativement différentes, même en termes de flexibilisation du marché du travail, même en termes de protection sociale. Donc c'est pas aussi évident que ça de construire une stratégie politique qui permettrait de les unir.
Plus les questions d'ordre culturel, etc., qui sont des lignes de fracture. On va y revenir, mais quand même, on va s'intéresser au président actuel, Emmanuel Macron, qui a une probabilité quand même de faire un second mandat. On enregistre l'émission dans une conjoncture où justement la majorité tente de le présenter comme le président du pouvoir d'achat. Hein, là, avec l'augmentation des prix d'énergie, on a plein d'annonces sur comment aider les Français, les ménages les plus pauvres à traverser ça. C'est le président du quoi qu'il en coûte, hein, ce qu'on a vécu pendant la pandémie, avec beaucoup d'argent public déversé, surtout vers les entreprises. Mais enfin, ça a été une façon aussi de préserver des emplois. Bref, il est défini comme quelqu'un qui est capable de défier l'orthodoxie économique. Or, vous défendez dans le livre, hein, même après tous ces épisodes, que non, Macron, c'est bien l'acmé du bloc bourgeois, et il poursuit un cap néolibéral très clair. Est-ce que vous pouvez justifier ça et donner des exemples?
Ouais, fondamentalement, sa stratégie, c'est de s'attaquer à la protection sociale et à la relation salariale, parce qu'il n'y a plus que ça qui reste à transformer. Et pour ça, il est prêt à faire des concessions. La politique macroéconomique sera mise au service de cet objectif. Donc s'il le faut, pour faire passer la pilule, on fera des dépenses, etc. Avec l'idée en plus que si ça creuse le déficit, ce sera un argument pour faire des coupes supplémentaires dans les dépenses sociales la fois d'après. Donc finalement, il joue relativement habilement de la fameuse stratégie Starve the Beast, hein, la politique des caisses vides, et de la politique qui était celle recommandée par ses conseillers économiques, ou en tout cas ceux qui s'imaginaient être ses conseillers économiques, qui étaient les économistes autour de lui, qui avaient cette vision qu'il fallait faire des réformes structurelles parce que c'était bon pour la croissance dans le long terme, mais que la politique macro, quand même, elle devait être keynésienne.
Des gens comme Philippe Aguillon, Pisani-Ferry
est vraiment celui qui est assez représentatif. Oui, de cette ligne. Il n'était pas du tout austéritaire, ils étaient plutôt au contraire dans l'idée que pour faire passer les réformes néolibérales, il fallait une politique accommodante. Ce qui n'est pas forcément ce qu'a strictement fait Macron, mais Macron, là, sur ce point, il est pragmatique. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des erreurs d'interprétation où on dit « Ah, mais finalement, Macron, il n'a pas de stratégie, il réagit au coup par coup, etc. » C'est parce qu'il se concentre uniquement sur des choses qui ne sont pas l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est la transformation néolibérale. Et ça, il maintient un cap. Il a été empêché par... Il y a deux choses qui l'ont gêné au cours de son quinquennat. Il y a les Gilets jaunes qui l'ont...
2018.
Voilà, 2018. Et surtout, il y a eu la pandémie qui a retardé ces réformes les plus importantes.
Dont celle des retraites, donc qui ressort du chapeau régulièrement.
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, parce que comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de débat autour de la réforme des retraites, qui est un point, à mon avis, très sensible pour l'électorat? Comment ça se fait que quelque chose aussi important ne soit pas au centre, qu'on ne lui pose pas des questions? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il joue avec des annonces en disant « oui, on va le faire, non, on ne va pas le faire avant l'élection ». Vous voyez, le contenu, pour l'instant, personne ne le sait précisément. Moi, je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de curiosité sur ce sujet qui me paraît central.
Alors, pour autant, donc comme vous le dites, le bloc bourgeois, alors, il a sa cohérence, mais il a aussi une forme d'étroitesse sociologique en termes de poids dans la population. Et donc, dans le dernier chapitre que vous consacrez à Macron, vous évoquez pour lui, pour s'appuyer, donc pour un éventuel deuxième mandat, vous évoquez l'idée d'un bloc de droite 2.0. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est une extension du bloc bourgeois, mais qui irait prendre quel genre de groupe?
Alors, dans les travaux qu'on a fait avec Stefano Palombarini sur justement cette réflexion autour des blocs sociaux et du bloc social dominant, on voit vraiment comme quelque chose de hiérarchisé et structuré. Donc tous les groupes sociaux à l'intérieur ne sont pas égaux. Je pense que le cœur du bloc restera le bloc bourgeois. Ça restera ces groupes sociaux diplômés, aisés, etc. Mais évidemment, pour faire un bloc qui est un bloc social qui est une assise, notamment électorale, mais aussi sociale, tout bêtement, hein, suffisante, il faut agréger d'autres blocs au cœur, à ce cœur bourgeois. Quand on voit le programme qui est une transformation néolibérale, on se dit que ça ne peut pas être les groupes sociaux de l'ancien bloc de gauche qui vont pouvoir fournir les gros bataillons, parce que pour la plupart, ils sont déjà ralliés au bloc bourgeois. Du coup, la réserve, elle est du côté des groupes sociaux qui sont encore attachés de façon plus ou moins lâche à l'ancien bloc de droite. Et donc, pour les satisfaire, il faudra probablement répondre à certaines de leurs attentes. En matière économique, c'est pour ça qu'on ira probablement vers un approfondissement de la transformation néolibérale, voire sur d'autres aspects sécuritaires, immigration, que sais-je encore.
Oui, vous dites que les stratégies peuvent, enfin que le néolibéralisme n'est jamais pur et qui peut aller attraper une dimension, ce qu'on appelle illibérale, identitaire.
Exactement.
Et qui expliquerait le fait que Macron, tout en essayant de n'en dégager par ailleurs, laisse ses ministres aller sur ce terrain-là extrêmement dur.
C'est assez
amusant. Plus les violences policières, plus ce qu'on a documenté ici.
Exactement, parce que le quinquennat Macron, suite au quinquennat Hollande d'ailleurs, s'est caractérisé quand même par un recul des libertés publiques dans beaucoup de domaines. Hein. Et chose amusante, c'est que ça n'a pas semblé gêner beaucoup les groupes sociaux du bloc bourgeois, y compris ceux qui venaient du bloc de gauche. Ouais. Donc je pense que voilà, pourquoi est-ce que ce sera un bloc de droite 2.0? Je pense qu'effectivement ça va tenir lieu de bloc de droite, mais un bloc de droite rénové dont probablement une partie des classes populaires qui étaient à droite sera soit très périphérique, soit carrément en dehors. Mais je pense que le reste du bloc de l'ancien bloc de droite, ou une bonne partie du bloc de droite, peut sans trop de problèmes se rallier à un bloc bourgeois droitisé.
Alors, pour ceux qui aimeraient une alternative à ce scénario, qui rêvent plutôt d'une transformation écologique, sociale, hein, par rapport aux grands défis du temps, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer d'ailleurs? Enfin, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, quoi, par rapport aux transformations assez énormes, hein, qu'a connu l'économie française depuis ces 4 décennies que vous décrivez? En gros, sur quel terrain, quoi, les plus significatifs, il faudrait renverser la vapeur pour aller vers quelque chose qu'on pourrait appeler comme éco-socialiste ou socialiste écologique, quoi, comme vous dites.
Il y a probablement sur les attentes fondamentales qui restent majoritaires dans la population, en termes de protection sociale, en termes de relations de travail, de qualité du travail, de services publics et de choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une remarquable performance des stratégies néolibérales qui est de réussir à être dominante en étant très minoritaire dans l'opinion. Et du point de vue écologique, c'est-à-dire que, en gros, la stratégie néolibérale passe entièrement par transformer en mécanisme de marché la transformation écologique, hein, et en espérant que les marchés concurrentiels vont pouvoir assurer cette transformation écologique. Je pense que ça passera par la conviction que, en fait, non, ça ne suffira pas et que ça ne marchera pas, et que donc il faut radicalement autre chose, et que cette autre chose ne passe pas par un accroissement de la libéralisation des marchés ou une généralisation du mécanisme des prix à tout un tas de choses pour lesquelles ils n'ont pas encore trouvé d'application.
Mais alors, une des difficultés là-dedans, pour ceux qui défendent un autre modèle, qui essayent de convaincre de la fausseté, entre guillemets, ou de l'impasse, en tout cas, de ce modèle néolibéral, un des obstacles, c'est, je voudrais qu'on termine là-dessus quand même, parce que vous y revenez à plusieurs fois dans le livre, c'est la question de l'intégration européenne. Et là, on a une vraie difficulté, parce que la France, c'est-à-dire, on a eu des polémiques récentes à la suite d'un événement en Pologne, où il était question de quel droit prime, est-ce que c'est le droit national, est-ce que c'est le droit européen, donc on ne va pas rentrer là-dedans, mais ce qui reste à retenir, c'est que la France est enserrée dans un tas d'obligations européennes, certaines qui sont un peu souples, hein, on s'en aperçoit sur les budgets, là, en tout cas provisoirement, là, c'est relâché, certaines beaucoup plus dures quand il s'agit de droits de la concurrence ou de cette fameuse liberté de circulation des capitaux qu'on évoquait à l'instant. Et ça, cette intégration européenne, pour vous, ça fait partie des choses qui fracturent un éventuel néo-bloc de gauche, quoi.
Oui, clairement. C'est-à-dire que déjà, ça a fracturé le bloc de gauche traditionnel. Et on voit bien que pour la création d'un nouveau bloc de gauche, d'un bloc populaire de gauche, on pourrait dire, on voit bien que c'est aussi un problème.
Alors qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui...
Il y a un attachement quasi... D'abord, il y a la puissance des institutions qui sont là. C'est-à-dire que c'est un coup à changer les institutions. C'est des compromis qui sont très difficiles et probablement très coûteux à remettre en cause. En plus, c'est l'inconnu, parce qu'on ne sait jamais ce que la remise en cause d'un compromis peut impliquer. C'est ambigu parce que les compromis sont contestés à la fois d'un côté très autoritaire, de droite, etc.
Et d'un côté... Ce qui se passe en Pologne.
Exactement. Et donc la vision n'est pas claire ni pour un côté ni pour l'autre, enfin, surtout du côté de la gauche. Et puis il y a un attachement, je crois, à une sorte d'internationalisme ou de supranationalisme quasi... instinctif,
d'idéal ou automatique, voilà, donc, c'est ça. Donc on irait contre ça en contestant un peu fermement l'Union européenne. Quoi.
Qui fait que vous trouvez même des proclamations libre-échangistes du côté de l'extrême gauche, par exemple. C'est aussi curieux que ça puisse.
Mais ils sont contre le protectionnisme par crainte que ça vire en opposition des peuples entre eux.
Exactement. Et donc c'est exactement ce genre de problème, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de réflexion aboutie, en tout cas d'ensemble, sur non seulement la stratégie de constitution d'un nouveau bloc, mais même sur la façon dont on pourrait réfléchir à commencer d'élaborer une telle stratégie.
Est-ce que c'est pas quand même ce que Jean-Luc Mélenchon, avec des tas d'autres difficultés politiques, mais essaye de faire sur ce chapitre européen et au-delà? On a fait une émission sur le populisme de gauche un peu avant, donc... pose la question.
Oui, si, c'est probablement la seule force politique qui a réfléchi de manière un peu poussée à la question, et qui, pour autant que je puisse suivre de l'étranger, qui effectivement a évolué sur cette question et envisage des manières de plus de subvertir les compromis existants que de les remettre en cause frontalement, ce qui est toujours coûteux. en termes politiques et en termes sociaux.
Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie, Bruno Hamal, pour cet entretien. Donc, je rappelle le titre de votre livre, La résistible ascension du néolibéralisme. C'est un voyage de 1980 à 2020 dans l'économie politique française. Merci encore. Et
merci.
Puis, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous renvoie à mediapart.fr pour retrouver tous les grands entretiens du studio.